Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites partie des chanceux qui ont réussi à entrer dans cette salle. Et malheureusement, il y a beaucoup de malheureux, autant de malheureux apparemment que d'heureux, pour cette rencontre avec Frédéric Lenoir et Claire Marin. Alors, on va parler, on passe une heure ensemble, une heure avec vous, avec des livres qui sont très différents, mais qui ne s'opposent pas, on va dire plutôt qu'ils se complètent. Claire Marin, Être à sa place, publié aux éditions de l'Observatoire. Et Frédéric Lenoir, Le désir, une philosophie, publié chez Flammarion, qui vient de sortir. Qui sort la semaine prochaine. On l'a ici, en revanche. En avant-première, avec un micro, c'est mieux, Frédéric. Il est en vente ici ? Il est en vente déjà ?
Oui, oui, on l'a sorti avant la sortie officielle, pour être à Brive.
Voilà. D'accord, donc c'est une avant-première pour vous. Très bien. De quoi alors ? Moi, je suis venue avec mes questions, vous êtes venue sans doute avec vos réponses. De quoi avez-vous envie de parler ? Qu'est-ce que le livre de l'autre vous inspire ? Le thème de la place chez Claire, le thème du désir chez Frédéric ?
Ben, moi, quand j'ai vu le titre de votre livre, que je n'ai pas lu, je suis désolé, je me suis tout de suite dit, ça fait quand même un écho immédiat avec le désir, puisque je crois que on désire déjà trouver sa place. Et que si on la trouve, on est quand même très heureux. Et que si on ne la trouve pas, c'est quand même un problème. Donc, ce qui m'évoque tout de suite, c'est cette idée, cette connexion entre être puis trouver sa place, c'est quoi ? Bon, je vous écouterai avec plaisir. Mais je le vois déjà comme un appel intérieur à être soi-même, à être en harmonie, en accord avec soi-même. Et puis aussi, une place dans la société et peut-être trouver une place où on est utile, peut apporter quelque chose aux autres, et quand les deux coïncident, c'est formidable. Et moi, je me suis dit, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, c'est que j'ai trouvé très tôt quelle était ma place, et à 12 ans, je savais que je voulais écrire des livres. Et donc, mon désir intense était d'écrire des livres, et ayant pu vivre cette vocation, je suis, je pense, tout à fait à ma place, à la fois en adéquation avec moi-même, et je sais que je fais des livres qui touchent les autres, qui peuvent apporter quelque chose aux autres, donc je me sens aussi à ma place dans la société. Bon, voilà ce que ça m'a tout de suite fait penser.
Le désir vous a conduit. Voilà, le désir vous a conduit à votre place, exactement, à occuper votre place. Claire, c'est un être à sa place. C'est une préoccupation qui est souvent reprise et en général reprise par les livres de développement personnel ou de méditation aussi. Et en fait, vous faites de cette question un objet philosophique. Comment vous y prenez-vous ?
Oui, je crois que c'est aussi une question philosophique. Et qui est très lié au désir, bien évidemment, et on a d'ailleurs des références qui se recoupent, puisque quand on est à sa place, peut-être même momentanément, quelque chose de l'ordre de la joie se manifeste, et on retrouve chez Spinoza ou chez Bergson, dont vous parlez dans votre livre que j'ai lu avec plaisir.
Bravo.
Alors, à la décharge de Frédéric, il est toujours par bons et par vos, et il n'a pas reçu le livre de Claire.
J'étais en Asie, je suis rentré il y a 2 jours, voilà. Mais j'aurais pu le lire dans le train, désolé.
Vous êtes allé en Asie en train, vous ? D'accord. Waouh. Non, rien. Claire, pardon.
Donc, effectivement, nos approches se recoupent au sens où, d'abord, on a des références communes, je crois, qui nous importent et qui disent quelque chose de fort sur la manière dont on se définit, sur la puissance des affects qui nous conduisent et qui nous construisent. Après, le propos du livre, c'est aussi d'interroger l'idée d'avoir une place définitive. Je pense que c'est un grand luxe, c'est une grande chance d'avoir une place qui émerge comme objet du désir dès 12 ans et qu'on finit par réaliser et qu'on partage. C'est très rare, je crois. Vous êtes très chanceux. Mais je crois aussi qu'on a plusieurs places. On a une place familiale, on a une place sociale, une place professionnelle. Et l'une des questions, c'est justement ça, de réussir à concilier ces différentes places dans une espèce d'harmonie. Et c'est difficile.
Et puis vous avez raison de dire qu'on a plusieurs places. Puis on change de place. C'est-à-dire que même professionnellement, moi je ne cesse de rencontrer des gens qui ne se sentent pas à leur place dans leur boulot, qui sont pas en adéquation avec leurs valeurs, par exemple, et qui disent, ben, moi, je suis dans un métier où je sais que je contribue à polluer la planète. Or, c'est un de mes soucis principaux. Je voudrais changer de métier, trouver une place qui fait que je serai en adéquation entre mes valeurs personnelles et mon activité. Donc, on est amené souvent dans la vie à changer de place. Et ça rejoint un peu le thème de mon livre d'avant, qui était sur Jung et sur le processus d'individuation. C'est-à-dire cette idée que Jung nous dit, entre 35 et 50 ans, très souvent, les individus qui avaient le nez un peu dans le guidon, c'est-à-dire qu'on est un peu formaté pour, voilà, on fait des études, on cherche à gagner de sa vie, on forme une famille, tout, puis on se réveille à un moment donné, et souvent parce qu'il peut y avoir des épreuves de vie, un divorce, un échec professionnel, tout, puis on se dit, mais au fond, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais ce qui me convient vraiment? Est-ce que je... et là, je vois beaucoup de gens qui changent de vie. C'est ce qu'on appelle plus, de manière plus triviale, la crise du milieu de vie. Et c'est quelque chose de très profond que moi, j'observe chez beaucoup de mes lecteurs. Hein, quand je les vois dans des voyages, des conférences et tout, c'est beaucoup de gens me disent « je suis en reconversion professionnelle ». Donc, vous avez tout à fait raison. On n'a pas qu'une place. Enfin, moi, je n'en ai peut-être qu'une. Mais en tout cas, beaucoup de gens changent et évoluent. Et en fonction de leur évolution, cherchent à nouveau leur place.
Pour nourrir la pensée que vous développez chacun dans vos livres, en tout cas dans ces deux-là en particulier, il y a des points communs. C'est-à-dire que vous dites « je » tous les deux. Et ce qui n'est pas courant en matière de philosophie, on ne dit pas « je ». On dit « eux », on parle des philosophes, on s'efface ou on nourrit sa pensée, mais de façon très externe. Et vous allez chercher vos sources et vos exemples et vos matières à penser, pas forcément dans le champ de la philosophie. Il y a c'est un peu votre patte, Frédéric, mais Claire, il y a beaucoup d'écrivains, de romanciers. Pour ces questions-là, vous êtes appuyé, ce qui est un peu... transgressif, sur la littérature. En fait, vous nourrissez tous les deux vos pensées à partir aussi de la littérature.
Oui, alors je ne sais pas si c'est transgressif, mais en tout cas, il me semble que ça rend certains concepts plus accessibles, que des personnages ou des situations romanesques permettent de matérialiser ou d'incarner très vite un problème, un dilemme, une question existentielle, et qu'ainsi, on part avec le lecteur sur une base commune. Très vite, on pose la scène d'une certaine manière. Et puis, je crois que sur certaines situations de vie complexes ou exaltantes, il y a une puissance littéraire sur laquelle il est dommage de ne pas s'adosser. Et moi, j'aime beaucoup écrire un livre avec des écrivains que j'aime, que je lis et que je relis avec plaisir. Donc, c'est aussi le luxe que je m'accorde en écrivant, c'est d'être accompagnée par des auteurs que j'aime.
Alors, moi, je le fais peut-être moins usuellement. Plutôt dans les... Je pense à un roman, La Consolation de l'Ange. J'avais Victor Hugo qui m'accompagnait tout le long du roman. C'était un choix de l'avoir introduit dans l'intrigue. Mais dans les essais, c'est vrai que je reste plutôt sur la tradition de la pensée, hein, à la fois occidentale, donc la philosophie telle qu'on l'entend, mais orientale, parce que c'est de la philosophie aussi, mais un petit peu décalée. Mais dans ce livre sur le désir, il y a un chapitre que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, c'est sur le désir mimétique.
Oui. René Girard.
Voilà, qui est un sujet, je pense, qui nous relie aussi. Souvent, on désire ce que l'autre désire. Hein, c'est ça, désir mimétique. C'est une triangulaire. Je désire quelque chose parce que quelqu'un que j'admire le désire. Et j'ai fait ce chapitre en suivant un penseur que j'ai bien connu, que j'aime beaucoup, qui est René Girard. Et qui a écrit ce livre magnifique qui s'appelle « Mensonges romantiques et vérités romanesques ». Et donc j'explicite, je résume son livre en 20 pages qui est passionnant, où il nous explique qu'en fait, le mensonge romantique, c'est de penser, dans la lignée des romantiques du 19e siècle, que nous avons tous des désirs spontanés qui nous permettent d'orienter nos vies, etc. Et il dit, mais non, c'est un mensonge. En fait, l'essentiel de nos désirs sont des désirs mimétiques. Nous imitons les désirs de nos parents, de nos éducateurs, et puis qu'on est adolescent, de nos copains, des stars auxquelles on s'identifie, etc. Et donc, pour le montrer, il s'appuie sur les grandes œuvres des écrivains comme Cervantes, donc Quichotte, comme Le Rouge et le Noir, Proust, etc. Dostoïevski, il prend les plus grands auteurs modernes et il donne des exemples extrêmement concrets. C'est fascinant. Alors, je prends un ou deux exemples, mais par exemple, dans le Madame Bovary, eh bien, elle calque sa vie sentimentale sur les romans qu'elle a lus adolescente, et donc elle est dans le désir mimétique. Julien Sorel, dans Le Rouge et le Noir, il ne cesse d'imiter les désirs des gens qu'il admire pour essayer de grandir dans sa position sociale, mais aussi celui qu'il engage comme précepteur l'engage parce qu'il pense qu'un autre personne avec qui il est en rivalité veut l'engager. Alors c'est parce que l'autre le désire qu'on désire, et dans la vie amoureuse ça arrive très souvent. Et d'ailleurs Julien Sorel lui-même, pour reconquérir l'amour de Mathilde, va se faire désirer par quelqu'un d'autre, et du coup il va réveiller le désir de la femme qu'il n'aimait plus. Enfin, on voit, et Proust en parle très très bien du désir mimétique, il dit le petit Marcel qui il va voir une cantatrice, il trouve ça nul, mais comme quelqu'un qui l'admire trouve ça formidable, il trouve ça formidable. Il nous raconte comme ça que vraiment les écrivains nous ont montré à merveille comment nous avions essentiellement des désirs mimétiques. Et alors, je pense qu'il va trop loin. C'est-à-dire qu'il dit carrément, René Girard, il n'existe quasiment que des désirs mimétiques. Et je pense qu'il va trop loin. C'est-à-dire que, oui, beaucoup de nos désirs sont mimétiques. Nous désirons ce que les autres désirent, notamment les gens que nous admirons, les modèles, mais pas que. Et moi, je redis mon exemple très simple. Je ne vois pas, à 12 ans, ce qui fait qui j'aurais voulu imiter. Mon père n'avait écrit aucun livre. Je ne voyais pas autour de moi d'écrivain. Donc, je crois qu'il existe des désirs très profonds, des désirs intimes qui viennent de nous, de nos talents, de ce que nous sommes comme individus singuliers. Et puis, il y a des désirs qui sont évidemment ceux des autres et qui évoluent au fur et à mesure. Et qu'il y a un mélange des deux, en fait, je crois, dans nos vies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Claire.
C'est ce que vous dites en reprenant Bergson. C'est la joie d'être créateur de soi. Et je pense qu'on pourrait dire que c'est effectivement l'accomplissement d'un désir propre qui se manifeste à ce moment-là, oui, quand... celui que je deviens coïncide avec celui que je désirais devenir être.
Alors, dans votre livre, parlons un peu de ce mot désir et cette valise qui est désir, dans lequel on a fourré des sens extrêmement différents. C'est assez étonnant quand on lit votre livre de voir à quel point les philosophes s'en sont emparés pour le doter de sens ou de destination. Très différent, ça peut être extrêmement négatif chez Platon, le désir comme manque, ça peut être un élan vital, là on est plutôt chez Bergson, chez Nietzsche, partant de Spinoza. Enfin, voilà, on sait, Frédéric, on vous connaît, on sait que vous êtes on vous place du côté de Spinoza dans cette histoire.
Oui, j'adore Platon aussi,
s'il faut trancher.
Et je pense que les deux ont raison.
Expliquez-nous comment une notion peut être à ce point contradictoire.
Ben, ça commence avec l'étymologie, qui est très ambiguë, puisque desiderare, on peut l'interpréter, c'est lié aux étoiles, hein, aux constellations, et on peut l'interpréter comme avoir perdu le lien avec les constellations, c'est-à-dire qu'on n'est plus relié aux astres, et du coup on s'égare. C'est un peu le marin qui, puisqu'il ne suit plus l'étoile, il ne sait plus où il va. C'est l'homme qui ne contemple plus les choses célestes et qui, du coup, s'égare dans les choses terrestres. Et du coup, le désir nous égare. Il est en permanence source de frustration, toujours inassouvi, parce qu'au fond, et c'est l'interprétation platonicienne, parce qu'au fond, le vrai désir qu'on a, c'est un désir d'absolu, c'est un désir de la beauté en soi, etc. Et du coup, on va chercher dans des choses terrestres ce dont on a la nostalgie, qui est le bien en soi, le beau en soi, etc. Et donc, on pourrait dire qu'il y a cette interprétation platonicienne du manque qui correspond à une forme d'étymologie. Puis, on peut interpréter autrement desiderare comme le fait de sortir de la sidération. Sideratio, c'est être sidéré. Être sidéré, c'est-à-dire qu'on est figé. On ne peut plus avancer. Et le désir, c'est ce qui va nous désidérer, c'est-à-dire ce qui va nous faire rentrer dans la vie, dans le mouvement. Et je trouve ça très beau aussi. Et ça, c'est Spinoza. C'est-à-dire, c'est Spinoza, c'est Nietzsche et Bergson. C'est toute une tradition de la philosophie qui commence petitement avec Aristote, mais qui a pris toute sa force avec Spinoza et repris par Nietzsche et Bergson. C'est cette idée que le désir, c'est ce qui nous met en mouvement. C'est la puissance. C'est le conatus, effectivement, de Spinoza, repris par la volonté de puissance de Nietzsche. Et c'est ce mouvement qui fait qu'on est pleinement en vie et qu'il faut cultiver le désir. Il ne faut pas en avoir peur. Alors que le manque fait qu'on peut s'égarer, qu'on peut en permanence être insatisfait, et c'est le tonneau des Danaïdes, hein, qui se remplit jamais, parce qu'il est percé, donc un désir entraîne un autre, et puis une insatisfaction, etc. Et du coup, lorsqu'on est dans le désir manque, mais qui est une réalité, beaucoup de gens ne vivent que dans le désir manque. Et donc Platon a raison de décrire le désir comme ça. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'on peut continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Or, si on écoute Platon, non. Et donc Spinoza nous dit on peut continuer à désirer ce qu'on possède déjà. On peut cultiver le désir de créativité, le désir de l'être, le désir de grandir en connaissance, en amour, etc. Et là, c'est un désir qui ne représente aucun danger. Au contraire, ça nous conduit à la joie et des joies de plus en plus grandes. Et donc on peut dire que la complexité du désir humain permet ces deux interprétations, ces deux étymologies. Le désir, c'est à la fois le manque dans lequel on s'égare, et puis c'est à la fois la puissance vitale qui fait qu'on se sent pleinement vivant.
Vous venez dire le monde dans lequel on s'égare, et en effet, on retrouve aussi le contexte d'écriture du livre de Claire, c'est la question du monde dans lequel on vit. Et vous l'abordez aussi dans votre livre, vous en parlez tous les deux. Vous, Frédéric, en citant un économiste, l'économiste Galbraith, qui dit que les besoins sont en réalité le fruit de la production. C'est-à-dire que nous sommes dans une société, pas récente non plus de ce point de vue-là, où finalement nos désirs sont orientés par quelque chose qu'on aura mis avant, vers le besoin. Alors après, on peut dire désir et besoin, c'est pas la même chose. La société consumériste, quel rôle joue-t-elle dans la place, mais aussi dans le désir ?
Avant de donner la parole, juste un mot là-dessus. Vous connaissez cette chanson d'Alain Souchon, Foule sentimentale. On nous inflige des désirs qui nous affligent. Tout est dit. On a soif d'idéal. Et en fait, la société de consommation crée des besoins et des désirs qui, en fait, nous affligent. C'est-à-dire que ça ne nous rend pas heureux d'avoir une machine à laver plus grande ou une voiture plus puissante. Mais on nous le fait croire. Et ce que Galbraith a très bien montré, cet économiste américain qui était assez opposé au libéralisme classique, c'est qu'en fait, quand on nous dit le capitalisme est là pour répondre à des besoins, etc., il dit non, les besoins sont créés par le capitalisme. Et on peut le démontrer facilement. Je prends des exemples. Il y a tout un chapitre sur le consumérisme, parce que c'est vraiment très, très parlant, où les grandes firmes, notamment General Motors et d'autres, dans les années 20, ont pris conscience que pour écouler toute la production, il fallait susciter de nouveaux besoins, donc de nouveaux désirs. Et pour ça, comment ils ont procédé ? Par la comparaison. C'est-à-dire, madame, vous avez un frigidaire, mais savez-vous que votre voisine a un frigidaire encore plus grand ? Monsieur, vous avez une Ford 8 cylindres, savez-vous que votre voisin possède une Ford 16 cylindres ? Et c'est par la comparaison sociale que la publicité a créé de nouveaux besoins qui n'existaient pas. Parce qu'on n'a pas besoin d'une Ford 16 cylindres quand la vitesse est limitée à 100 km/h. Et donc, c'est juste par le mimétisme, par la comparaison sociale, donc là on rejoint un peu le désir mimétique, qu'on a créé des besoins, et des besoins qui font qu'aujourd'hui, on est en train de détruire la planète à cause de ça. C'est dramatique. Et tout ça, c'est un système qui a été mis en place tout à fait consciemment. Il faut en permanence susciter des désirs de consommation. Et c'est ça qui fait que notre planète est en train de périr et que les individus ne sont pas heureux. Moi, je reviens du Cambodge. Là, j'ai fait un voyage sur le Mékong et tout. J'ai visité des petits villages. Les gens avaient un toit, ils avaient de quoi manger, rien d'autre. Ils rayonnaient de joie. Et puis, je reviens dans le métro parisien, je me dis, mais que les gens sont tristes. Et donc, on voit très, très bien que oui, on a besoin de confort. Mais en même temps, ce n'est pas ça qui va nous rendre le plus heureux. Notre cœur aspire à autre chose que simplement consommer des objets. Donc, et je cite aussi Jean Baudrillard, qui est un auteur que j'aime énormément, qui a été dans les années 70 avec son livre La société de consommation, qui a montré que c'était un mythe et qu'il y avait une pensée magique derrière tout ça, et il le déconstruit de manière admirable. Et donc oui, là on est dans l'exemple parfait du désir manque dans toute son horreur, on pourrait dire.
Claire ?
Oui, je pense qu'on peut faire le parallèle sur la question des places avec la manière dont on nous présente des carrières ou des places idéalisées. Et moi, c'est toujours un travail un peu de déconstruction que je fais avec mes étudiants quand ils fantasment sur telle ou telle carrière. C'est de les amener à interroger concrètement ce qu'est la journée de telle ou telle profession ou de quelqu'un qui a telle ou telle profession. C'est-à-dire, effectivement, il y a un salaire, mais il y a aussi une manière de vivre, un type de relation avec les autres. Est-ce qu'on aime être toujours dans des relations de compétition, de pouvoir, éventuellement d'agressivité ? Donc, analyser très concrètement ce que sont ces places qu'on fait miroiter pour nous ou qu'on valorise dans le discours ambiant. Et puis, il y a aussi tout ce qui se passe inconsciemment sur les places qu'on projette pour nous ou sur nous. Ça commence dès l'enfance. Ne serait-ce que dans la hiérarchie familiale, la place qui nous incombe d'une manière qui n'est pas toujours très choisie, qui n'est même pas toujours très explicite, mais qu'on intériorise. Et puis, dans les parcours de vie qui sont les nôtres, qu'est-ce qu'on choisit véritablement dans la place à laquelle on finit par aboutir? Donc, ces constructions de désir, elles touchent aussi nos parcours et nos projections, alors même qu'on peut avoir l'impression qu'elles sont vraiment les nôtres.
Vous traitez tous les deux la question de la place, elle se joue beaucoup aussi au moment de l'adolescence. Et quand on a un désir qui rend malheureux par le consumérisme, en fait, ce que vous venez d'expliquer, Frédéric, il y a aussi un rapport aux réseaux sociaux qui fait intervenir la question du désir et qui fait aussi intervenir la question de la place, ne serait-ce que parce que dans une interaction par des réseaux, une interaction médiée, se joue aussi la question de l'intime et de l'extime, c'est-à-dire que la question de la place qu'on se donne à soi est finalement victime d'une intrusion qu'on permet à l'autre. Il y a aussi la question du désir se joue aussi dans cette relation qui, en vous lisant, Frédéric, s'avère totalement mortifère. Est-ce que vous pourriez réagir à cette question passionnante ?
C'est vrai que la question se dédouble, c'est-à-dire que de plus en plus, et en particulier pour des générations plus jeunes, le temps qu'on passe dans le monde virtuel devient presque un tiers d'une journée. Si on regarde les statistiques des temps passés sur les réseaux sociaux, c'est assez incroyable. Et du coup, cette question de la place, elle se dédouble, et parfois même la place du personnage virtuel qu'on peut créer, qu'on peut mettre en scène, qu'on peut même transformer physiquement avec des filtres, etc. Parfois, on est un peu dévoré par notre avatar, notre création virtuelle, jusqu'à finalement ne plus supporter, mais c'est ce que vous dites à un moment dans votre ouvrage, notre propre image, puisque celui que nous sommes réellement n'est jamais à la hauteur de cette créature parfaite qu'on ne cesse de perfectionner technologiquement. Donc ça devient une vraie question de savoir jusqu'à quel point je projette dans un monde purement virtuel la personne que j'aimerais être, jusqu'au point de détester ou de mépriser ma vie réelle. Et je pense que les modifications qu'on nous propose avec un métaverse, un autre monde, sont très effrayantes de ce point de vue-là.
L'action de Facebook dévisse, c'est peut-être une bonne nouvelle à cet égard.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Claire. J'ajouterais quelque chose par rapport aux neurosciences et aux réseaux sociaux. C'est que plus on connaît le cerveau humain, plus on comprend comment il fonctionne, enfin les cerveaux, hein, et donc il y a notre cortex qui nous permet de penser, etc. Mais le moteur de tout, en fait, celui qui est au volant, celui qui dirige les choses, c'est le striatome. Et le striatome, c'est notre cerveau primaire, en fait, que nous apportons depuis toujours et que nous partageons avec les animaux. Mais chez l'humain, en fait, c'est quatre choses. Il nous pousse à rechercher de la nourriture, du sexe, de l'information et un statut social. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une position sociale reconnue. Et les études montrent qu'au fond, d'ailleurs la publicité a été construite comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont compris le fonctionnement du cerveau humain et qu'il fallait jouer sur ces quatre composantes. Et c'est toujours ça qu'on nous vend derrière tout ça. Et évidemment, la dimension très importante pour notre sujet, c'est la dimension de la comparaison sociale et du statut social. Et les créateurs des réseaux sociaux, notamment Facebook, ont compris ça très vite en disant il faut que le réseau social soit pour l'adolescent une vitrine de sa personnalité, de ce qu'il veut montrer aux autres. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait des choses qu'il valorise, c'est les likes, les commentaires. Après, on a inventé les filtres pour qu'il change son apparence physique, etc. Et donc, on joue, évidemment, dès le départ, sur un besoin très fort de l'être humain, naturel, mais qui s'exprime avec une particulièrement grande puissance à l'adolescence, où là, on est particulièrement dans la comparaison. Et bien, en fait, je cite des gens de Facebook qui disent on est en train vraiment de jouer avec le cerveau de nos enfants et de nos adolescents, parce qu'au lieu de les rassurer, ça les insécurise en permanence. Ils sont tout le temps en train de se demander est-ce que j'ai eu un lac, est-ce que je suis aimé, est-ce que je suis considéré, etc. Ils vivent en permanence dans le regard d'autrui. Et au lieu de s'affirmer comme ça, ils sont dans l'inquiétude permanente. Et s'ils n'ont pas de like ou des commentaires méchants ou qui sont allumés, etc. et tout, ils sont très mal. Il y a des dépressions, il y a des suicides, etc. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a une manipulation psychologique qui est faite par les réseaux, tout à fait consciente, puisque je cite plusieurs personnes qui ont travaillé à très haut poste chez Facebook, Google, YouTube, etc., et qui disent on a fait de la manipulation mentale. Et aujourd'hui, évidemment, ils ont quitté, ils disent, ils le dénoncent, etc. Mais, et donc, il faut être très, très attentif à ça, parce que je crois que ça peut, dans la construction de l'identité, qui est un moment très important dans l'adolescence, les réseaux sociaux peuvent être un biais extrêmement pervers sur lequel il faut être conscient. Et ça, c'est l'éducation. C'est dire, voilà, construis-toi, mais pas uniquement à travers le regard des autres, à travers... Et il y a quelque chose de la confiance en soi qu'il faut apporter aux adolescents, de leur singularité, de leur talent personnel, de ce qu'ils sont, pour qu'ils puissent se construire, pas uniquement dans le regard social, et notamment à travers les réseaux sociaux, où aujourd'hui, on nous dit qu'en moyenne, les adolescents français, c'est 3h50 par jour. Donc c'est assez effrayant.
C'est peut-être aussi un peu difficile pour les parents, pour les générations antérieures, d'éduquer et de guider des adolescents sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas rencontrés, puisque c'est propre à cette nouvelle génération.
Ou qui sont eux-mêmes en addiction. Parce que le problème des adultes, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a des parents qui sont pires que les enfants, ou pareil, et disent « mais attends, regarde, toi, tu es tout le temps sur ton smartphone ».
Oui, mais ils n'ont jamais été adolescents oui. avec ces
objets. Ils se sont construits autrement, c'est vrai. Du coup, il y a plus de liberté, il y a plus de détachement. Et moi, je crois que ce qui crée, donc en fait, je parle du mot addiction, il est juste. C'est-à-dire qu'il y a progressivement une addiction qui se crée, et on sait que cette addiction est liée à la dopamine. C'est-à-dire que c'est le circuit de la récompense. Chaque fois que vous avez de la nourriture, du sexe et de la reconnaissance sociale ou de l'information, les quatre renforceurs primaires de notre triatome, chaque fois, il y a un shoot de dopamine qui vient nous récompenser. C'est comme ça que l'espèce a évolué. Et donc, ça continue. Ce qui fait que chaque fois qu'il y a un like, il y a un petit plaisir de dopamine. Chaque fois qu'il y a un commentaire, ouah, j'ai un commentaire, truc de dopamine. Ou dépression. Parce qu'évidemment, quand ce n'est pas positif, c'est... Et du coup, il y a une addiction à la dopamine qui se crée. Comme les joueurs, hein, les gens qui jouent, qui sont addicts au jeu et tout, c'est un shoot à la dopamine. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette espèce d'émulation à chaque fois, de se dire, est-ce qu'on va gagner, voyez. Et donc, c'est exactement ça. Il y a une addiction à la dopamine qui se crée chez les adolescents. Alors, comment en sortir? Eh bien, là, je reviens à Spinoza, qui a cette phrase formidable qui dit « On ne quittera pas une addiction, une dépendance, une mauvaise habitude par la raison et par la volonté. » Parce qu'on le voit très bien avec les alcooliques et tout. On leur dit « Mais il faut que tu changes. » « Ben, je sais, mais je n'y arrive pas. Ben, » et la volonté ne suffit pas. Ils ont beau savoir, ils n'y arrivent pas. Et Spinoza nous dit « On ne peut quitter un affect négatif, ou on pourrait dire une addiction, que par un autre affect. » Ce n'est pas la raison et la volonté. Il faut mettre un autre affect, puisque le désir est l'essence de l'homme. Il faut créer un nouveau désir. Il faut susciter un désir plus fort que le désir qu'on veut contrarier. Et ça, c'est génial, parce que c'est la pédagogie par excellence. C'est-à-dire, vous voulez que quelqu'un quitte une addiction, ça ne sert à rien de le moraliser, de lui dire c'est mal, etc. Il le sait. Il faut juste l'aider à susciter un nouveau désir qui sera plus fort que ce qui le rend malheureux actuellement. Alors, par exemple, l'art, le sport, la vie amoureuse. Enfin, il y a plein de choses.
Qui les bonbons.
Les bonbons, je ne sais pas si
mais
ça
non, mais
suffit.
Parce que quand on arrête de fumer...
Oui, oui, c'est ce qu'on donne pour
on
les...
On peut oui. passer à une autre addiction qui est l'addiction
c'est vrai,
la
je me souviens de Laurent Blanc, l'entraîneur de foot avec ses sucettes pour arrêter de fumer. Donc effectivement, les bonbons peuvent... Mais à un niveau plus profond, susciter un désir qui fait que par un affect plus puissant, on va trouver de la dopamine. Mais à un autre niveau... Qui nous construira au lieu de nous rendre malheureux et de nous faire perdre notre liberté.
En lisant et en laissant infuser vos deux livres, la question de la mort m'a paru, c'est le moment gay, m'a paru concerner vos deux approches, c'est-à-dire en contrepoint ou en tout cas en nécessité pour permettre ce que vous développez. Et ce que vous appelez de vos vœux, mais de votre raisonnement. Est-ce que c'est une erreur en tout cas, quelle est la place de la mort dans le désir et aussi dans la recherche de sa place? Si on annulait la mort, est-ce que les questions que vous développez, chacun dans son livre, se traiteraient de la même manière?
Si on annulait la mort, je ne sais pas s'il y aurait de la philosophie, parce que c'est quand même... l'un des horizons qui nous amène à nous questionner, cette finitude et peut-être ce sentiment d'urgence à vivre des choses, à trouver sa place, à connaître cette intensité du désir. Ce qui est évident, c'est que la mort comme événement bouscule les places qu'on a dans sa famille, par exemple, redistribue un peu les cartes des rapports, entre guillemets, de pouvoir ou de responsabilité dans cette échelle-là. Et puis, elle questionne aussi sur l'authenticité des places. On sait dans l'histoire de la philosophie à quel point la mort, par exemple, de l'ami chez Montaigne est l'occasion d'un questionnement extrêmement profond et vécu comme une amputation majeure pour Montaigne. Il ne vit plus qu'à demi une fois que la Boétie est décédée. Donc il est évident que l'exercice philosophique se fait évidemment dans l'horizon de la joie, mais aussi dans ce cadre que la mort nous impose.
Vous savez que je fais des ateliers de philo avec les enfants. C'est une expérience que je fais depuis bientôt 10 ans qui est extraordinaire, de faire philosopher les enfants. Et j'ai... Oui, je crois qu'il y a un téléphone là qui nous perturbe un peu, il participe. Et donc, je fais souvent cet atelier sur la question « Vaut-il mieux être mortel ou immortel ?» Et la première fois que je l'ai fait, c'était avec des enfants de 9 ans, hein, CM1, 9-10 ans, je m'attendais à ce que la grande majorité des enfants disent « immortel » parce qu'ils sont sur des jeux vidéo, ils gagnent des vies, etc. Et tout. Pas du tout. Écrasante majorité, il vaut mieux être mortel. Je dis pourquoi ? Première réponse, parce qu'on serait beaucoup trop nombreux sur Terre. Mais c'est tellement vrai. C'est des réponses du bon sens, mais auxquelles on ne pense pas toujours. Mais la mort permet la vie, permet de laisser la place aux autres. Imaginez que tous les humains soient immortels et les animaux, mais la planète est beaucoup trop petite. Il faudrait je ne sais combien de planètes pour que tout le monde puisse être là ensemble. Première chose, ça permet la vie. Donc déjà, on voit les choses autrement. Deuxième réponse, ah ben heureusement qu'il y a la mort, parce que les méchants seraient toujours là sur Terre. Il y aurait toujours Napoléon qui ferait les guerres en Europe, Hitler qui persécuterait... Bon. Donc là, évident. Troisième réponse, oui, mais si on en a marre de vivre, c'est bien de pouvoir partir. Si on est mortel, on ne peut pas. Et quatrième réponse, c'est à ça que je voulais arriver, une petite fille qui dit, ben heureusement qu'on meurt, parce que sinon on repousserait toujours les choses essentielles à plus tard. Et c'est ce qui m'a fait le plus réfléchir. Et je trouve qu'elle a tellement raison, à 9 ans, de dire des vérités aussi profondes. Et ça me fait penser à Montaigne. Que nous dit Montaigne dans les essais ? Je compense la brièveté de cette existence par l'intensité que je mets dans toutes mes expériences. Quand je dors, je dors. Quand je mange, je mange. Quand je danse, je danse. Je suis totalement présent dans ce que je fais avec plein d'intensité. Et donc, c'est parce qu'on sait qu'on est mortel qu'on peut vivre intensément. Donc la mort fait partie de la vie.
C'est finalement, ça recoupe aussi le bouddhisme, l'impermanence qui fait que le moment présent doit être vécu avec le plus d'intensité.
Oui, on peut
et
le dire.
Et dans le désir.
Oui, tout à fait. Alors sur le bouddhisme, il y a beaucoup de malentendus sur la notion du désir. Puisqu'on parle du bouddhisme, je vais peut-être essayer d'en dire un mot. C'est vrai qu'on a l'image du bouddhisme qui anéantit le désir. Puisque le Bouddha nous dit, vous connaissez les quatre vérités sur la souffrance, enfin sur la condition humaine, hein, c'est que tout est souffrance, c'est que la cause de la souffrance, c'est le désir, la soif, c'est-à-dire en fait le désir-attachement. Et il y a un chemin qui nous mène à la cessation de la souffrance. Et donc, on comprend traditionnellement que pour atteindre l'éveil, il faut arrêter de désirer. Et ce n'est pas tout à fait ça. En fait, il faut quitter l'attachement lié au désir. Mais un moine bouddhiste qui va méditer dans une grotte dans l'Himalaya, qui a renoncé à tout, il est animé par un désir extrêmement puissant. Le désir d'atteindre l'éveil et le désir de venir en aide à tous les êtres souffrants. C'est la compassion. Et donc ces désirs-là sont d'une puissance absolue. Il n'a pas renoncé à ces désirs-là. Il a renoncé à des désirs matériels qui le détourneraient de ses désirs essentiels. Mais dans ses désirs essentiels, il doit être détaché. C'est-à-dire que même si la souffrance continue, peu importe le résultat, il doit continuer de méditer pour le monde entier. Même s'il n'atteint pas l'éveil, peu importe, il doit continuer à désirer l'éveil. Et donc ce qui compte, c'est de ne pas être attaché au résultat de ses désirs. C'est ça le cœur du bouddhisme. C'est le détachement. Mais un détachement qui n'est pas de l'indifférence, qui est simplement, voilà, j'accepte ce qui est. Et du coup, ça fait regarder un petit peu autrement le bouddhisme, parce que ce n'est pas du tout une tradition du mépris du désir. C'est plutôt, on réoriente ses désirs de l'avoir à l'être, et dans l'être, on essaye d'être le plus intense dans nos désirs tout en étant détaché. Et c'est une leçon de vie, parce que moi, j'apprends de plus en plus à désirer tout en étant détaché. Et dans la vie amoureuse, c'est pas facile. Hein. Désirer intensément tout en se disant, bon, si je me prends une claque, c'est pas grave. C'est pas si simple que ça.
Avez-vous une ou deux questions à poser à nos invités ? Oui. monsieur au milieu qui se gratte la tête. C'était pour poser une question. Est-ce que vous pouvez vous lever en revanche pour qu'on puisse vous entendre? Ah, il y a un micro, voilà. Regardez, le micro arrive. Monsieur, regardez à gauche. Voilà.
Ce n'est pas une question, mais juste sur ce dernier point, sur vis-à-vis du bouddhisme, je me permettrai peut-être une petite correction avec toute la prétention que ça peut amener. Je crois que le but du bouddhisme, ça serait plutôt de... Alors, attendons.
Straight to the point, allez-y, on va bientôt se quitter.
Je crois que ça serait plutôt l'ignorance et non pas le désir. Dans la suite de ce que indique le Bouddha, c'est plus une histoire de comprendre ce qu'est l'ignorance, de comprendre, de ne rien comprendre, mais de percevoir ce que va être l'ignorance, et à travers ça, toute la chaîne sera interrompue. Et le désir, là, à ce moment-là, effectivement, on arrive dans le non-attachement dont vous parlez.
Bien sûr, mais je n'ai pas parlé en général du bouddhisme, j'étais sur la question du désir. Oui, pour dire simplement qu'effectivement, la soif est la cause, mais bien sûr que la résolution après, qui permet d'atteindre l'éveil, passe par le noble tube de sentier, hein, la pensée juste, la parole juste, l'intention juste, etc. Et que ça, c'est passé de l'ignorance à la connaissance, et connaissance de la vraie nature des phénomènes. Donc, on ne va pas faire un truc sur le bouddhisme. C'était juste pour situer la question du désir dans le bouddhisme, même si elle s'accompagne de la question de l'ignorance, évidemment. Mais sur la question du désir, moi, je rencontre un tas de gens qui me disent « Oh, ben, le bouddhisme, ça tue le désir ». C'est pas ça. C'est ça que je voulais dire, simplement.
Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je vois des bras s'agiter, oui, dans le fond.
Ça veut dire que tout le monde est bien à sa place.
Je m'interrogeais sur l'ennui. J'ai tendance à penser l'ennui comme l'antagoniste du désir. Schopenhauer nous disait qu'entre la joie et la tristesse se trouvait l'ennui. Est-ce qu'on peut s'ennuyer joyeusement tout en désirant ?
Claire, je suis sûre que vous répondrez très bien à cette question.
Moi, je crois que c'est dans l'ennui que le désir va naître. Quand on est occupé, même préoccupé par tout un tas de choses à faire, on ne va pas laisser la place au désir d'émerger, ou en tout cas au désir authentique et propre. Donc, c'est peut-être ce qui manque justement aussi à certaines générations, ces moments d'ennui. On les surcharge d'activités, de choses à faire, à apprendre, comme si c'était la clé du bonheur et de l'accomplissement d'un sujet. Mais je pense que les longues phases d'ennui, qui sont déjà une forme, je parle sous contrôle, d'initiation à une réflexion sur soi et peut-être à la méditation, c'est là que le désir peut apparaître.
Tout à fait, c'est vrai que... Non, mais j'approuve pleinement parce que je suis censé contrôler. Mais j'ajouterai une chose. Vous connaissez cette phrase de Schopenhauer que André Comte-Sponville dit, c'est la phrase la plus désespérante de toute la philosophie, c'est que notre existence balance tel un pendule de la souffrance à l'ennui. Souffrance de ne pas être à notre place, de ne pas avoir ce qu'on désire, etc. Et ennui d'avoir trouvé une place où on s'ennuie, ennui d'avoir quelque chose ou quelqu'un avec qui on désire ardemment quelqu'un, puis au bout de quelques années on s'ennuie, on désire ardemment un boulot, puis au bout de quelques temps on s'ennuie, et donc il nous dit on passe de l'un à l'autre. Et au fond c'est pour ça que le désir va renaître incessamment, parce que dès qu'on s'ennuie, ben, on redésire quelque chose. Et donc vous avez tout à fait raison de dire que c'est l'ennui qui ressuscite de nouveaux désirs. Et qu'on a besoin, et l'être humain est comme ça, c'est que dès qu'il s'ennuie, c'est l'occasion pour lui de sortir de sa zone de confort, d'explorer de nouveaux horizons dans tous les domaines. Hein. Et donc effectivement, je crois que l'ennui favorise le désir, comme la tristesse est en corrélation avec la joie, et moi je ne les oppose pas du tout. Je suis très proche de Nietzsche, qui montre à quel point les deux vont ensemble. Et que vivre intensément ces tristesses ne s'oppose absolument pas à vivre les plus grandes joies. Au contraire, ce qu'il faut, c'est embrasser toute la vie. Et ce qui est beau, comme dit Nietzsche, dans la vie, c'est les hauts, les bas, les moments tristes, les moments joyeux, les moments agréables, les moments désagréables. Et c'est ce qui fait la richesse et la beauté de la vie, et comme un morceau de musique. On s'ennuie si le rythme était tout le temps pareil. C'est parce qu'il y a des moments rythmés, des moments lents, des silences, du son. C'est cette alternance qui fait qu'un morceau de musique nous émeut. Eh bien, Nietzsche nous dit, la vie est émouvante parce que justement elle passe de la tristesse à la joie. Et nous n'aurions d'ailleurs la joie, nous ne conscientiserons pas ce que c'est. Nous ne pourrions conscientiser la joie si nous n'avions pas l'expérience de la tristesse. De la même manière qu'on ne peut pas savoir qu'on est heureux si on n'a jamais connu le malheur. Quelqu'un qui n'a jamais été malheureux ne sait pas qu'il est heureux. C'est cette phrase, je crois, de Prévert qui nous dit « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. » Et c'est vrai. Et la vie, c'est comme ça. Nous faisons l'expérience du plein parce que nous faisons l'expérience du vide. Et nous découvrons la beauté de la lumière parce que nous traversons la nuit. Et donc c'est magnifique, ce sont toutes ces polarités, ces contradictions apparentes, mais qui ont besoin, ce sont des polarités, ce sont des expériences qui s'appellent l'une l'autre. Et c'est comme ça que notre conscience grandit. Et que c'est comme ça, pour moi aussi, que notre cœur grandit. C'est souvent à travers des épreuves que notre cœur s'ouvre. Donc je trouve qu'il n'y a pas de contradiction, la vie est quand même un miracle extraordinaire.
Eh bien, nous ne nous ennuyons pas. Et nous ne le désirons pas, mais il est temps de s'abandonner et vous de rejoindre, de regagner votre place en dédicace. Frédéric Lenoir, vous publiez la semaine prochaine, mais dès maintenant à Brive, Le désir, une philosophie aux éditions Flammarion. Et vous, Claire Marin, Être à sa place aux éditions de l'Observatoire dans la collection La Relève.
Que je m'empresse de lire.
Vous ferez bien. Merci à tous pour votre attention.
Mesdames et messieurs, nous vous invitons à sortir par la porte située en fond de salle. Merci beaucoup.